France Inter.
Ce qui compte pour un acteur, c'est la personnalité. Sa présence.
Vous répondrez non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule les ténèbres. Ok ?
Ça peut couler, hein.
On en parle. Tout. Vous.
Allez, action !
Ce qui sera encore mieux, c'est de rien dire.
C'est fou tout ce qu'on peut mettre dans une petite sacoche. La vie en grande banlieue, la vulnérabilité masculine, les relations amoureuses et familiales. Et finalement, tout tient dans ce film, sur notre affiche ce matin. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à tous.
J'aime bien être un outsider, un bug dans la matrice, dit-il. Bonjour Martin Jova.
Bonjour.
30 ans et un deuxième film après Grand Paris, celui-ci, Baise en ville, Sprite, en grande banlieue, c'est vous. Doit trouver un emploi, mais pour cela il devra passer le permis de conduire et pour le payer, trouver un emploi. C'est le pitch de cette ode aux galériens des banlieues, conduire sa vie aussi. Sprite n'est pas vraiment un séducteur, Martin Jova, lui, oui, puisqu'il a réussi à vous caster et à vous capter. Bonjour Emmanuel Berco.
Bonjour.
Marie-Charlotte, sa monitrice d'auto-école, en roue libre, le personnage et l'actrice et mère de substitution aussi. Le père du film, c'est vous. Bonjour Michel Hazanavicius.
Bonjour.
Petit rôle, mais présence bienveillante. Bref, deux cinéastes acteurs dans cet ovni. Baise en ville sur nos écrans mercredi prochain. Enfin, les sorties. Un mage, une princesse, un grand ciel et Hamnet, c'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
C'est quoi ton nom ?
Corentin Perrier. Mais je préfère qu'on m'appelle Sprite.
Sprite ?
Ouais, ma pote, il m'appelle Sprite.
Ouais, bah, je suis pas ta pote, Corentin. Bon, moi, c'est Marie-Charlotte, enchantée.
Enchantée.
T'as passé ton code en 2020. Il va expirer, mon salaud, hein ?
Ouais, je sais. D'ailleurs, je me demandais, c'est quand un peu la date où ça marchera plus, enfin, où ça sera plus valide ?
Bah, dans 2 mois.
Ah, merde.
Ouais.
Mais ce serait possible de le passer genre 2 mois?
Mais bien sûr que c'est possible, je suis la meilleure coach de Seine-et-Marne.
Ok. Et d'ailleurs, je me demandais, il me reste pas des petites heures de conduite?
Comment ça?
Bah en fait, mes parents, ils m'avaient pris une forme d'apprentissage avec plein d'heures, et je les ai pas toutes faites.
Ah ouais, mais les contrats d'apprentissage, c'est comme les yaourts, hein, ça se périme.
Sprite, c'est vous, Martin Jova, devant et derrière la caméra, dans Baise en ville, votre deuxième film après Grand Paris. Et toujours à Chelles, en Seine-et-Marne, votre ville, cet ancrage qui vous a impacté à jamais. À partir de cette sacoche à bandoulière et cette expression désuète, finalement l'occasion de raconter la vie en grande banlieue, la vôtre.
Oui, c'est vrai que ça m'intéresse de montrer des visages de la banlieue qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma, où il y a plein de couleurs, il y a des pavillons, on se croirait plutôt dans un film de Tim Burton que dans un drame social. Et ça correspond pas mal, moi, à cette expérience que j'ai eue de la banlieue dortoir, où il se passe pas grand-chose, et où ça libère plein d'espace pour développer son imaginaire.
Et avec un noctilien qui marche pas toujours pour rentrer de Paris à chez vous.
C'est sûr, mais moi j'adore les noctiliens, en fait, je trouve ça trop poétique. Même le mot noctilien, je l'adore.
Oui, c'est
le
vrai.
Le mot terminus aussi, je l'adore. Il y a plein de mots comme ça que je trouve hyper beaux.
Vous êtes amoureux des mots parce que Baise en ville, vous l'avez découvert il n'y a pas si longtemps.
C'est vrai, hein, j'avais quoi justement, j'avais l'âge de Sprite quand j'ai découvert, j'avais 25 ans.
Ouais.
Tout de suite, je me suis dit, mais ce concept-là, de ce sac qui te permet, quand t'es démuni, que t'as raté le dernier train, de survivre. Mais en fait, toute ma vie, j'avais un baise en ville sans le savoir, parce que j'ai toujours eu ma brosse à dents dans mon sac à dos, moi.
Ouais.
J'ai toujours essayé de squatter sur des coins de canapé... plutôt que de prendre les navettes de substitution qui te rallongent ton temps de trajet de 3h30, qui est quand même un truc épuisant et qui concerne tellement de gens. Je me dis, il y a tellement de millions de personnes qui sont comme ça, dépendant des transports, souvent défaillants, et leur vie, on ne les voit pas trop dans les films, et, alors que ça a un impact sur ton quotidien qui est énorme, quoi.
D'où l'idée du permis de conduire qui est essentiel.
Et complètement, ouais. Alors qu'on nous dit quand même maintenant, c'est pas le truc le plus écolo du monde. Aujourd'hui, c'est pas dans l'air du temps de se dire faut passer le permis de conduire, faut prendre la bagnole, faut aller sur la route. Mais les transports en commun, quand même, ils sont pas toujours tip-top.
C'est des régions aussi, des lieux où on peut attendre une heure un bus qui arrive jamais.
C'est ça. Et ça, c'est vrai que ce rapport à l'ennui, moi, il m'a beaucoup marqué. Quand j'étais adolescent, j'en souffrais un peu parce que je passais tellement de temps à rien faire, à galérer, à attendre. Et en fait, c'est ça, je pense, qui m'a poussé aussi à commencer à écrire des histoires, justement pour combler ce vide-là, de l'ennui, ces paysages qui n'ont aucun sens, que je voyais défiler par les fenêtres des bus ou des RER. Finalement, ça a commencé à m'inspirer quelque chose. Je me disais, ces paysages-là, en fait, ils sont beaux. J'aimerais bien les filmer et raconter des histoires, mais pas des histoires tristes ou glauques. Justement, des choses où la fiction serait possible, l'imaginaire, la fantaisie. Et c'est comme ça que j'ai commencé à développer un peu ce style-là.
Quand vous dites Tim Burton, c'est vrai que dans votre film, ça ressemble beaucoup à ces maisons colorées pastel. Mmh. Et c'est là où il faut développer un imaginaire à partir de cette banalité.
C'est ça, exactement. C'est poétiser le banal, le moyen, l'ordinaire. Et essayer de lui donner une joie, une couleur, une énergie, une vitalité inattendue. Et c'est ça, moi, c'est le côté imprévu de ce cocktail-là qui me plaît beaucoup.
Faire du cinéma là où on est, finalement.
Ouais, ça, c'est important pour moi. À chaque fois que j'ai des idées de scènes, de personnages, elles s'incarnent dans ces décors-là, que je trouve très photogéniques et qui sont rarement filmés, bizarrement. En fait, plutôt dans les films américains, moi, c'est vrai que ma ville me fait penser au Truman Show un petit peu.
Ouais.
Et je trouve qu'il y a une atmosphère tellement singulière. Il y a une espèce de bizarrerie. Il y a une poésie aussi. Je trouve qu'ils sont très poétiques. Ce qu'on appelle le périurbain, ces zones-là entre la ville et la campagne. Puis, on parle souvent de banlieue parisienne, mais la banlieue, il y en a partout, en fait. Et moi, je suis attaché à ma ville, Chelles. C'est un ancrage très précis. Mais j'ai l'impression qu'en allant au fond de l'intime de mon rapport à cette ville-là, bah en même temps, ça peut parler à plein de gens qui ont leur ville à eux, leur petite ville moyenne, peut-être dans d'autres coins de la France, peut-être même dans d'autres pays.
C'est souvent des films réussis. Moi, on pense au film de Relsan, effectivement, ouais. Comment c'est loin. C'était en Normandie, c'était pareil. C'est souvent les premiers films qui sont comme ça, d'ailleurs. Bon, c'est votre deuxième, mais sur là où on est et sur l'ennui d'une génération.
Ouais.
Or, Relsan l'a bien réussi aussi.
C'est sûr, il m'a beaucoup inspiré.
Ah oui ?
Ouais, bah, j'aime beaucoup ce qu'il fait, son attitude. Enfin, je me reconnais en lui. Ce serait comme une sorte de cousin un peu plus âgé. Et on a traversé les mêmes questionnements. Je crois qu'on est tous les deux déboussolés, un peu tristes. Et en même temps, on essaye, avec légèreté et un pas de côté, bah, quand même de faire des blagues.
Mais comment on pense au cinéma quand on est justement à Chelles, par exemple ?
Bah,
faire d'école, sans faire
non,
de...
Non, c'est sûr. Bah, ce qui est bien, c'est qu'il y a un cinéma à Chelles. J'ai travaillé comme caissier pendant 5 ans, l'Étoile Cosmos. Et puis, finalement, les films, on peut aussi les voir chez soi, quand même. Non, et moi, je me suis forgé une cinéphilie à l'adolescence. Je suis devenu complètement passionné, un peu boulimique, à regarder le plus de films possible. Et dès que j'ai eu le bac, j'ai voulu faire des études liées au cinéma à Paris. Alors, c'est des études littéraires. Et c'était très théorique. On faisait des dissertations sur des grands cinéastes. Et au bout d'un moment, bah, j'étais un peu frustré. Ça me donnait vraiment envie d'essayer aussi, moi. Et la barrière, c'était mentale. C'était moi-même qui m'a posé. Je me disais, mais en fait, j'ai aucun talent. C'est impossible. Quelle légitimité j'aurais à dire action ou on faut tourner là et pas là. Mais à un moment, bah, j'ai réussi à faire sauter ce verrou. Je sais pas comment. Et avec quelques camarades de classe qui partageaient cette espèce de frustration théorique-là, on a fait un petit tournage, ça nous a plu. Tout de suite, j'ai filmé Chelles. Tout de suite, j'ai voulu réinvestir ces endroits-là. Alors d'abord, c'était un peu la science-fiction. Moi, je suis un gros fan de science-fiction, que ce soit au cinéma ou en littérature. Et ouais, assez rapidement, j'ai eu envie d'en faire quelque chose de cette banlieue pavillonnaire qui n'était pas du tout prévue, pas du tout dans les codes, quoi.
Et dans ce deuxième film, vous avez ces deux acteurs qui sont avec nous ce matin, Michel Hazanavicius, Emmanuel Berco. On va écouter... On va écouter un extrait avec vous, Michel, sur qui jouait le père et qui expliquait à votre façon très masculine ce qu'est un baiser en ville.
Bon, ben, moi j'y vais.
Bois pas trop.
Je vais pas boire, maman, je vais au taf.
Putain, le baiser en ville, c'est revenu à la mode ?
Non, je crois pas.
Attends, fais boire. Non, mais attends, c'est pas possible, ça. Viens. Ça, c'est du baiser en ville.
Ouais.
Petit trou pour la brosse à dents. Poche à capote. Ça, c'est pour moi, c'est cadeau. Tu sais que c'est grâce à ça que j'ai rencontré ta mère ?
Non, mais franchement, je préfère pas ça.
À l'époque, tous les banlieusards, on avait un baiser vide comme ça. Qu'est-ce que j'ai pu baiser grâce à ça ?
Ouais.
Ah non, mais c'est des beaux souvenirs.
Ouais, je crois que je préfère pas savoir.
Non, mais tu préfères pas savoir, mais c'est comme ça que t'es né. Tiens, donne-moi ça.
Oh.
Essaye. Mais nickel, mais ça te va trop bien.
Ouais.
Mais méga beau gosse, ça me fait trop plaisir, ce cadeau.
Vous jouez bien, Michel Hazanavicius. Comment vous l'avez repéré, ce Martin Jova ?
On s'est rencontrés dans un festival,
ouais.
Et j'ai vu Harry sous son espèce de silhouette un peu pas clownesque, mais il flotte un petit peu, il a toujours le sourire accroché.
Georges Clooney, hein, quand tu dis.
Oui, Georges Clooney. Et du coup, Et je sais pas, j'ai commencé à le chambrer, je sais pas pourquoi. Et en fait, il prenait bien les vannes, il était content et tout ça. Et donc on a très vite sympathisé. Il sortait son premier film, donc je lui dis mais il était en stress. Je lui dis mais il sort sur combien de salles ton film? Il me dit 18 salles. Je lui dis mais ça va jamais marcher, laisse tomber. Enfin t'as aucune raison de stresser quoi.
Et donc, j'ai adoré ça. Moi.
Et donc il me regarde comme ça avec ses grands yeux de chat mouillé là. Et donc je lui dis, non mais franchement, détends-toi, si le film plaît, c'est bien, t'en feras un deuxième et tout, ouais, bon, bref. Et puis finalement, je sais pas, on a passé un peu de temps ensemble, on est devenus copains, voilà. Moi, j'aime beaucoup les très vieux réalisateurs, genre, non mais j'étais très copain avec Tavernier, ouais. J'adore Rapneau, etc. Et aussi les...
Très jeune.
Enfin, j'aime aussi les réalisatrices de mon âge, évidemment.
Oui, vous avez le même âge, d'ailleurs.
Non, non, mais non, non, en fait, moi, j'ai des bons rapports avec les réalisatrices et réalisateurs.
Ouais.
Et voilà, et c'est vrai que ça me fait plaisir, d'une certaine manière, d'accueillir... quand j'ai fait OSS, Jean-Pierre Jeunet m'a appelé à 15h le mercredi pour me féliciter, et en fait, ça fait... hyper plaisir. C'est-à-dire, vous vous sentez comme, pas adoubé, pas machin et tout, mais vous sentez qu'il y a des gens qui vous tendent la main et comme si vous rentriez dans un truc. Donc voilà, donc ça, moi, ça me fait plaisir aussi.
Il vous a rappelé un peu vos débuts, Régis est un con, avec Canal+, Les Nuls, etc.
Non, pas vraiment. Non, 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 je crois pas du tout que... Ah non, mais rien à voir. Ah
non, mais... Dans quel
mais
sens,
il
n'a
pas du tout, mais arrête. Mais moi, j'étais brillant, j'étais parisien. Je claquais toutes les nanas. Non, non, là, je plaisante, en fait.
Ouais.
Ah bon
ouais. Non, 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 j'ai pas du tout un rapport... enfin, on n'a pas un rapport de... je crois que nos films sont ultra différents.
Non, mais donc, certes, mais vous n'avez pas fait d'école de cinéma, pareil, vous êtes passé...
Ah, ce côté loser, si vous voulez dire...
Voilà, exactement, exactement.
Non, mais le côté décontracté,
oui,
peut-être, et...
Voilà.
Et ouais, ouais, sans doute, ouais. Ouais, ouais.
Martin, cette première rencontre avec lui...
Ah, moi, j'étais comme un ouf. Quand je l'ai croisé, j'ai même pas réalisé, c'est passé tellement vite, et c'est plus la semaine d'après, je suis allé présenter mon film dans la salle, il venait de sortir, à Paris, il y avait une seule salle, donc j'y allais toute la journée, matin, midi et soir, puis à un moment, je rentre dans la salle, comme ça, je m'installe devant l'écran, et là, je fais « Oh, Michel, ça va, tranquille !» Comme si on était potes depuis toujours, alors qu'en fait, on s'était croisé 5 minutes, mais j'ai pris comme ça des contracts, et puis, bon, alors, je suis rentré chez moi, j'étais assez content qu'il ait tenu... promesse et qu'il soit venu voir le film, il m'a envoyé un SMS. Alors ce qui est un peu bizarre, c'est que c'était le 1er avril, donc pendant un long moment, je pensais que c'était un canular, quoi. Quand j'ai envoyé ça sur le groupe de ma famille, ils m'ont dit non mais c'est une blague en fait. C'est un... Et d'ailleurs justement, mais c'est drôle que tu sais pas, parce que je t'ai dit, mais alors personne me croit, et tu m'as répondu non c'est vrai, c'est Poisson d'avril, c'est Jean-Pierre Jeunet.
Ah bah tu vois.
Et du coup cette filiation là, tu vois, Jean-Pierre Jeunet t'a écrit, toi tu m'as écrit.
Mais ce qui est fou, c'est que moi aussi, enfin moi j'avais toujours rêvé de rencontrer Martin Jova, et ça faisait des années en fait. Et quand je dis à mes parents, il était dans la salle, ils étaient comme des oufs.
Emmanuel Berco, en revanche, alors vous aviez vu ces films avant ou pas?
Eh bah pas tous du tout en fait. Hein.
Aucun non.
Aucun, ouais. Je les ai regardés
en fait, du tout.
Plutôt du tout que pas tous, ouais. Ouais, non, bah moi, si tu regardes des films.
Américains,
films d'action, des comédies avec Will Ferrell, des trucs comme
ouais,
ça.
Ouais, merci, oui. C'est une très belle référence.
Ah, cool.
Ouais. Bah, mais d'ailleurs, tiens, c'est marrant que vous parliez de Will Ferrell, pardon pour cette petite parenthèse, mais qui joue. Souvent, ces comiques sont sexuellement un petit peu. hors-jeu, quoi, je veux dire.
Ah oui, ouais.
Ouais.
Bah.
Mais c'est marrant, ouais. On n'associe pas le sexe et le comique.
Ouais.
C'est drôle, hein.
C'est très drôle.
40 ans, toujours puceau, tous les films avec Will Ferrell, en fait, ils n'ont jamais de rapport sexuel.
C'est très chaste, en général.
Oui.
Bah, ouais, c'est puis il y a Louis C.K. aussi. Hein,
oui, alors,
oui.
Il est un peu moins chaste.
Ouais, un peu moins chaste.
Un poil moins chaste.
Oui, ouais. Oui.
Enfin, après, je ne connais pas non plus la vie sexuelle de tout le monde, j'avoue. Mais c'est vrai que
pour un film qui
s'appelle. Oui, on est au courant, ouais. Et pour un film qui s'appelle Baisenville, c'est vrai que c'est plutôt fleur bleue.
Oui.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Non, mais ils sont souvent immatures. Mais revenons à Emmanuel Berco, donc vous n'aviez pas vu ses films.
Non.
Pourquoi elle?
C'est mon amie Anaïde Rosam qui joue dans le film.
Ouais.
On discutait très en amont du tournage, donc du scénario qu'elle a lu assez tôt. Et je lui expliquais que je séchais complètement sur ce rôle-là, tellement important. Enfin, c'est vraiment, pour moi, une sorte de buddy movie. Donc il fallait qu'on fasse la paire, quoi.
Oui.
Et je savais pas trop, moi, j'avais pas trop d'idées. Celle qui m'a dit Emmanuel Berco. Alors moi, ça me paraissait complètement improbable.
Dit c'est
qui? J'ai bien rien vu d'elle.
Je vois pas, non, désolé. Non, alors j'ai regardé en fait des interviews.
Ouais.
D'ailleurs, une qui était dans le studio là où on est en ce moment,
ouais,
je crois.
Ouais, d'accord.
J'aimais bien son énergie, je me suis dit, mais elle pourrait trop être une monitrice d'auto-école. Sa franchise, son espèce d'impact, ta façon de parler, ton énergie, ouais. Alors j'ai demandé à ce qu'on envoie le scénario, on a bu un café. Ce que je savais pas, c'est qu'en fait c'était moi qui passais le casting et pas elle du tout. Moi j'étais sûr, et elle voulait me rencontrer avant pour être sûre, quoi.
Bah oui.
Ouais, je comprends en même temps, parce que...
Bah oui,
ouais.
C'est un dialogue.
Emmanuel, c'est vrai, vous l'avez casté pendant le café.
Non,
c'est... Bah si, quand même.
Un peu.
Bah oui, à votre niveau.
C'est-à-dire que moi, le scénario, ça compte, c'est sûr, mais ce qui compte le plus, c'est quand même la personne qui fait le film.
Ouais.
C'est-à-dire que je peux foncer pour quelqu'un, alors que j'aime pas tellement le scénario. Là, j'aimais beaucoup le scénario. Je le trouvais extrêmement bien écrit et j'en aimais le ton. Mais je me demandais qui était derrière ça et je n'avais pas vu Grand Paris parce qu'il joue dans Grand Paris.
Oui.
Donc je ne savais pas du tout à quoi il ressemblait.
Oui.
Et donc je suis arrivée au café.
J'ai dans la vicieuse qui est.
T'as pas dû être déçue.
J'ai pas été déçue. Je suis arrivée au café, on a passé, je ne sais pas, peut-être une heure ensemble. Et ce dont je me souviens, c'est que je suis rentrée chez moi et j'ai dit oh, je viens de rencontrer un mec. Oh, j'avais envie de l'adopter, de le ramener à la maison.
Ah ouais, carrément.
Ah ouais. Ah, carrément, je ne l'ai jamais dit.
Ah non, ouais.
Ah ouais, j'ai été complètement sous le charme de Martin, qui ressemble à personne d'autre et qui a une espèce de douceur. C'est aussi son personnage dans le film, mais qui n'est pas dans cette virilité, ce... Et je sais pas, ça m'a énormément touchée. Et puis surtout, sa cinéphilie, enfin, ça... Et puis sa sympathie, ça... Et d'ailleurs, on est devenus amis, hein.
Ouais.
Comme le personnage est...
Ouais.
Comme le personnage Sprite et Marie-Charlotte, on est devenus au même rythme, quasiment.
C'est vrai, moi je me dis ça aussi.
Amis.
Oh, c'est la première fois qu'on en parle, mais moi aussi je me dis ça. Moi aussi je me suis dit, oh, c'est marrant parfois quand on s'envoie des messages, j'ai l'impression que tu me coaches en mode Marie-Charlotte comme dans le film. Ouais.
On va passer justement un échange un petit peu moins doux entre vous deux.
Ah. Bah, sur le dance floor, montre-lui ce que tu sais faire.
Mais je sais même pas danser.
Hey, mais toi, tu sais pas conduire, tu sais pas baiser, tu sais pas danser, tu sais rien faire en fait. N'importe quel débile est capable de savoir comment danser. T'as vu la gueule des gens sur le dance floor? Y a pas de raison que toi, Corentin Perrier, tu puisses pas danser. Allez, là, c'est mort ou jamais.
Bon, hein. Ça sert plus à rien.
Mais comment ça sert à rien? Ça sert à rien de baiser? Tu te rends compte de la chance que t'as? T'es jeune, t'es en forme. C'est maintenant que ça se passe là. Putain, mais quel gâchis de merde.
Mais putain, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie de baiser pour baiser. Je suis romantique, moi j'y arrive pas si je suis pas amoureux. Mais putain, vous me cassez tous les couilles, là vas-y, t'es jeune, profite. Mais c'est hyper culpabilisant à la fin, quoi. J'en fais ce que je veux de ma bite. Mais non, mais sans déconner, mais regarde-toi là, on est samedi soir, t'as vraiment que ça à foutre d'être là dans le coup du cul du 7-7 à me casser les couilles avec ma vie sexuelle. Mais c'est toi qui devrais te remettre en question, là. Pauvre meuf.
Vous vous lâchez, Emmanuel Berco, il est super. Ça a dû vous mettre en joie un rôle pareil.
Ouais, il est super. Il est super ce personnage et effectivement je me suis bien lâchée et je trouve ça, je veux saluer aussi parce que c'est comme ça aussi qu'on se dit que les gens sont intéressants. Moi quand j'ai lu le scénario qu'on m'a dit il te propose le rôle et déjà il m'intéressait parce qu'il n'est pas dans le cliché parce que quand on lit un rôle comme ça, je ne suis pas à l'évidence.
Non.
Les évidences, je peux vous les citer, il y en a plein.
C'est quoi?
Non mais...
Mais c'est nul.
Non, mais je sais pas, Audrey Lamy, par exemple, elle aurait été géniale.
Oui,
on sait qu'elle aurait été géniale.
Oui, je vois ce que vous voulez.
Et il n'a pas été vers des choix qui étaient plus évidents. Et déjà, ça, pour moi, ça donne une indication de quelqu'un qui a une vision, qui a une singularité, qui a envie de chercher ailleurs que dans le convenu, quoi.
C'est intéressant l'idée de buddy movie, justement, entre lui et elle, non? Parce que les buddy movies, vous avez dû en manger
mais complètement.
Au cinéma américain.
Mon premier film, c'en était un. J'adore les duos de potes comme ça.
Ouais.
Et celui-là, je l'aimais beaucoup parce que déjà, c'est un garçon et une fille.
Mmh.
Et puis aussi, ils n'ont pas le même âge. Alors, ça crée tellement d'autres dynamiques. Je trouve ça hyper, hyper, hyper inspirant, quoi. Ouais, j'adore. Ouais.
Elle était disponible à 100%, Emmanuel Berco.
Ah oui, sur le tournage.
Ouais.
Oui, oui, oui. C'est pas que, enfin, elle est très occupée, très demandée. Hein. C'est quand je dis disponible, c'est sur le moment où on est en train de travailler sur le tournage.
L'implication, quoi.
Ouais, ouais. Oui, l'application.
Mais oui.
Pas l'application de rencontre.
Non, alors, attends, l'implication.
Ouais, l'implication. Ah oui, d'accord, ouais, ouais. Non, je l'ai, ok. Ouais, pardon. Ouais. Ah bah, c'est ça, en fait.
J'ai la ref.
Ouais, j'ai la ref. C'est bon, j'ai la ref. Non, elle est sérieuse, studieuse. Elle connaît toujours son texte par cœur. On pourrait croire que c'est la moindre des choses pour une comédienne.
Bah oui.
Mais ouais, mais clairement. Mais pas que, en fait. En fait, je vais vous raconter un truc.
Dites.
Franchement, c'est limite bizarre, carrément, moi, je trouve. Hein. Mais sur le premier jour de tournage, premier plan, on commence à filmer un truc et Emmanuel, elle devait être derrière le bureau de l'auto-école et surgir.
Ouais.
Elle était en squat. Je sais pas si tu te rappelles ce truc. Oui. Et là, on commence et le chef-op fait « Ah mince, il y a un problème de lumière. Ah bah finalement, coupé. Bon, alors on va faire un changement de lumière. Bah, il y en a pour un quart d'heure. » Bon, bah, je sors, je bois un petit thé, je me balade. Mais où est-ce qu'elle est, Emmanuel? Je retourne sur le décor. Elle était toujours en squat derrière le bureau. C'est dingue quand même, non?
Elle est sourde. Je ne vois que ça.
Mais moi, je me suis dit, ah ouais, elle est motivée, quoi.
Mais... Non, je suis concentrée.
Ouais, concentrée. Ouais. Mais c'est fou, non?
Et aussi, elle a un truc très étonnant, Emmanuel Berco, c'est son rire aussi.
Ah ouais, carrément.
Qui peut surgir à n'importe quel moment.
C'est ça.
Mais elle vous a étonné même dans les scènes où elle, tout d'un coup, elle éclate
mais,
de rire.
Mais complètement. Et ouais. C'est ça aussi, quand je l'ai rencontrée, ouais. Quand j'ai rencontré, on buvait le café, elle était à côté de moi, et d'un coup, elle explose de rire, elle me mettait des claques dans le dos comme ça. Je me suis dit, mais incroyable. Elle passe comme, elle switch hyper vite. Et j'adore, en fait, c'est pas que ça me déstabilise, c'est... Enfin, c'est comme si elle s'ouvrait d'un coup et il y a un énorme sourire qui arrive, c'est plein de joie, un soleil, pouf, une éclipse. Moi, ouais, j'adore, moi. Peut-être j'ai exagéré un tout petit peu, mais parce que je l'aime beaucoup.
Ouais. Le tournage a été bien plus important que le premier, parce que d'abord, vous avez eu x30 de budget en plus.
Ah ouais, mais ça me stresse, parce que je me dis, après, si je fais un bide, c'est chiant, quoi.
Ah oui.
Je préférais faire un film qui coûte pas cher, mais bon, voilà, il y a eu plein d'argent.
Mais ça vous a un peu fait peur, tous ces gens sur le plateau ou pas?
Moi, je les connaissais tous et toutes.
D'accord.
C'est ça, mais... moi, j'essaie de travailler en famille. Donc,
non, mais il y a eu une pression avec un budget qui est à 3,5 quand même.
Ouais, 3,5, ouais, il paraît, ouais.
Bah, oh, il paraît.
Ouais, ouais, bah paraît, non, moi, j'essaie de bosser de la même façon. Je voulais surtout pas qu'on ait l'impression que d'un coup, il y avait trop d'argent. Je voulais vraiment que ça continue à ressembler à un truc cheap, fauché, quoi. Non, je dis ça en rigolant. Non, mais j'avais envie. Non, mais je rigole. Non, mais c'est une blague.
Et Michel, enfin,
Michel, c'est une blague.
Non, j'ai l'impression. Non, mais.
J'ai l'impression que quoi?
Non, mais il plaisante.
Enfin, à moitié. Enfin, j'avais envie de garder ce style-là d'image qui me plaisait beaucoup et que le fait d'avoir plus d'argent, ça transforme pas tout. Enfin, j'avais envie de rester moi-même.
Non, mais et puis il y avait une ambiance de court-métrage sur le tournage. Et la jeunesse des gens,
ouais.
Et ce qui était hilarant, bon, ça aurait pu me faire un peu flipper, mais pas du tout, c'est la pointeuse, par exemple, elle me dit « Non, mais un mois avant, j'étais architecte. La maquilleuse, non, mais moi, c'est la première fois avant, je faisais de la peinture. » Qu'est-ce que c'est que ça?
Ouais,
la plupart,
vrai, ouais.
C'était leur premier film, c'était vraiment génial.
Ouais.
Moi, j'étais de loin la plus vieille. Très, très loin.
Avec ouais. Michel.
Ouais. Ouais, mais comme on n'a pas tourné ensemble.
Vous avez senti ça aussi, Michel, sur le tournage, ce côté court-métrage?
Disons vraiment petite prod, quoi. Mais...
Non, mais dans l'énergie, je
ouais,
parle.
Oui, ouais, bien sûr.
Non, mais oui, il y avait un peu ce côté-là, oui.
Mais après, on bosse, hein.
Mais la jeunesse des gens.
Ouais.
Mais on a fait plein de films malgré notre jeune âge.
Mais attends, ça, je sais, j'ai vu
ouais.
tous tes courts-métrages.
Ah, oui, ouais.
Non, mais je parle de cette émulation
ouais,
qui
la
se fait un peu quand
ouais.
même, parce que j'ai fait des courts-métrages ouais. aussi, donc ouais. je vois un peu comment ça se passe. Et là, il y avait cette espèce de fraîcheur, même si je déteste ce mot,
ah, ouais.
De tout le monde, voilà, qui faisait penser à l'énergie qu'on trouve quand on se sent libre et qu'on n'a pas justement cette pression d'argent, de rentabilité, tout ça. Ouais. Je trouve que vous avez réussi à conserver ça.
C'était hyper important. Moi, je suis venu en me disant qu'il faut vraiment que je m'amuse, que je prenne du plaisir et je vais d'autant mieux bosser. Donc là, effectivement, le fait qu'il y ait plus d'argent, pendant quelques jours, je me suis dit « Oh mince, la pression !» Et après, je me suis concentré juste sur les scènes qui étaient amusantes, les dialogues, les questions de mise en scène qui me passionnent et toutes les questions annexes. Je me suis dit « Mais je suis pas un mec de l'argent, moi, je m'en fous. » Enfin, je veux dire, donc je me suis concentré sur ce qui me passionne et c'est raconter des histoires, faire des blagues, quoi.
Avec beaucoup de bienveillance, toujours.
C'est le plus important pour moi. Mais que ce soit dans le film, les personnages, mais aussi sur le plateau, l'énergie qu'on a entre nous, différents postes et différentes personnes qui se côtoient sur le tournage, c'est hyper important que la
bienveillance... Mais bienveillance dans le sujet aussi.
Mais complètement, ouais. Mais je trouve que la bienveillance, c'est pas trop à la mode, quoi. Et
C'est pas souvent attaché à la grande banlieue, en plus.
Non, voilà, je trouve qu'on en manque de bienveillance. Alors, c'est vrai que le film, c'est une espèce de bulle où il y en a plus que la moyenne, ouais, c'est sûr. J'aimerais bien que le monde soit comme ça, plus de tendresse, que tout le monde s'envoie de la force et de l'affection les uns les autres. Et peut-être j'aurais aimé en recevoir plus. Et ce qui est bien avec le film, c'est que ça, bah, du coup, j'en reçois pas mal de tendresse. J'en donne beaucoup dans le film, et les spectateurs et spectatrices qui vont le voir souvent m'en donnent en retour, et ça crée un cercle de tendresse comme ça, c'est magnifique.
Mais il y a un petit côté politique en même temps dans le film.
C'est hyper important pour moi.
Bah oui.
Bah, peut-être aujourd'hui, où tout se verrouille, se stresse de plus en plus, c'est vrai que moi, faire un film qui soit pas du tout politique, je vois pas comment c'est possible de toute façon, mais même je trouverais ça vain et lâche même, et encore plus une comédie. Et c'est vrai, moi j'ai l'impression que mon personnage, il a une espèce de naïveté, mais qui est plus pour moi de la candeur, et donc ça me fait de plus en plus penser à Candide, tout simplement, le personnage de Voltaire, ouais. Qui se balade, qui a l'air un peu neuneux comme ça, mais en fait, son rapport enfantin au monde, bah, ça lui permet souvent de souligner des injustices ou des choses aberrantes, ou de plein... et c'est important pour moi d'incarner ça.
Justement, à propos d'injustice, moi il y a une scène que j'aime bien, c'est la scène de l'arrêt de bus, là où vous, où vous croisez votre ancien copain,
ouais.
Camarade de classe, on l'écoute.
Oh, putain, ça fait un bail.
Ouais.
Quoi de neuf? Toujours à moitié de 18?
je vais au taf, là. Je fais de l'intérim.
Ah, ok.
Et toi?
Bah écoute, moi, je viens d'avoir mon diplôme.
Ok.
Tu sais, j'étais en échange à McGill, à Montréal.
Ouais.
Je sais pas si tu connais...
Non.
En tout cas, super fac, hein. Bête de ville. Ouais.
Cool.
Et toi, du coup, intérim?
Ouais. Mais c'est temporaire.
Ah oh ouais. Putain, quand je pense qu'au collège, c'était toi qui m'aidais à faire mes DM de maths. C'est chelou la vie, hein.
Ouais, c'est chelou la vie à 20h à 8h du soir. Mmh. Et petite humiliation à l'arrêt de bus quand même, hein.
Bah en fait, celle-là, je l'ai vécue telle quelle, j'avoue.
Avec c'est un vrai
pote, ouais. C'est drôle parce qu'il est venu voir le film Machel, là, il était choqué. J'avais oublié complètement. Il est venu, mais t'es sérieux, mais... Enfin, il savait pas, moi, que ça m'avait touché de cette façon-là. On s'est croisés dans le train, on a discuté, il m'a dit ça, ouais. Il était en costard, et moi, j'étais en galère. Et toi, les petits courts-métrages, ouais, bah écoute, ça galère un peu, c'est pas foufou pour l'instant. Et...
Sans idée de revanche de votre part.
Non, pas du tout, non. Au contraire, moi, je trouve. Enfin, y a pas de morale vraiment dans le film, mais d'être heureux avec. Notre sort, notre situation, quelle qu'elle soit, même si elle fait peut-être pas rêver, elle coche pas toutes les cases de la vie de rêve qu'on pourrait attendre sur les réseaux sociaux ou quoi. Bah juste, moi quand je faisais de l'intérim, j'étais heureux. Quand j'étais dans le pavillon de mes parents et que je me disais, bon bah c'est pas, je veux pas être une star ou quoi, mais c'est pas ça que j'attends de la vie. Le truc winner-loser, je le trouve tellement dépassé et tellement pas épanouissant.
Vous l'avez senti réalisateur sur le film Michel Hazanavicius, parce que c'est le deuxième, voilà.
Si j'ai senti un réalisateur,
ouais.
Oui, j'ai surtout senti quelqu'un qui a une voix particulière, c'est-à-dire il est très cohérent dans la manière dont il parle aux gens, dans la manière dont il met en place, et ce que le film raconte, c'est assez marrant parce que c'est une comédie, en fait... Souvent, les moteurs de comédie, c'est des conflits entre les personnages.
Oui.
Il y a très peu de conflits, en fait. Les personnages, ils ont des obstacles, mais ils ne sont pas les uns contre les autres. Il y a pas de... Donc, ça donne une espèce de douceur au film. Et l'univers, finalement, qui est celui du film, il est très doux, il est très bienveillant. Et il est comme ça. Et en fait, tous les acteurs, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a Sébastien Chassagne,
oui.
William
oui.
Bill, il y a ouais. Ed Rosam. Et ils sont tous...
Pellas.
Ouais, oui, qui joue la mère. Ouais.
Femme, s'il vous plaît.
Ouais.
Et effectivement, tout le monde est dans une espèce de truc très... très pas tranquille, c'est pas ça, mais il y a pas de gens méchants, il y a juste des gens qui ont des problèmes, etc. Et il est, oui, j'ai trouvé qu'il réalisait, tout ça était très en accord. Le scénario, sa manière d'être, ce que je connaissais de lui, il y a un truc qui est très cohérent, donc on fait confiance. De toute façon, si vous voulez faire, on se laisse aller. Hein.
En plus, il est devant et derrière la caméra, Emmanuel Berco, ce que vous avez très peu fait vous quand vous étiez, non mais quand vous êtes réalisatrice.
Oui, moi je l'ai fait qu'une fois, pour rien au monde je le referai. Mais le film est tellement lié à son personnage,
ouais.
Et ce qu'il est, la singularité de Martin dans la vie, qu'on ne peut pas imaginer que quelqu'un d'autre ait pu incarner Sprite comme il l'a fait. Ça faisait partie de l'identité du film. Après, c'est toujours très bizarre de jouer, ça m'est arrivé plusieurs fois en revanche, de jouer avec quelqu'un qui réalise en même temps, parce que quand la caméra est sur vous, vous savez jamais trop qui vous regarde, c'est très...
Ah oui.
Non mais c'est très troublant, ouais. Ça m'est arrivé plusieurs fois de dire « Attends, parce que arrête, sors de ton truc de réalisateur, parce que là, je sens que tu regardes, que t'attends que je fasse ci, que je fasse ça, et je suis plus connectée à toi comme acteur. »
Ah intéressant, c'est la première fois que j'entends ça.
Ah oui, mais ça plusieurs fois, j'ai dû lutter à chaque fois en fait. Mais c'est normal, je me mets à leur place. Moi aussi, je serais comme ça à regarder ce qu'il fait au lieu d'être avec lui dans la scène. Donc je sais que une ou deux fois, je t'ai dit « Attends Martin, regarde après si tu veux la prise, mais là... » Il faut qu'on soit ensemble. Donc c'est, ouais, c'est un exercice particulier.
Vous avez joué dans un film, dans un premier film qui s'appelait État des lieux, qui était vachement bien, ouais. de Richet. Là, c'était carrément une autre banlieue. Mais pareil, Richet, il n'a pas fait d'études de cinéma. C'était un peu sa vie ouvrière en cité.
Complètement, ouais. Et c'était aussi, je dirais, et aussi lui, il avait envie de parler de son territoire.
Ouais.
Mais pour moi, le point commun que je revois entre Martin et Richet à l'époque, c'est cet amour dévorant du cinéma, la cinéphilie, tout en venant d'un milieu qui prête pas du tout à ça, non. quoi. Et ça, ouais, c'est le même type de gens qui ont envie de défoncer tout parce que, par amour tout simplement du cinéma, ils ont envie d'en faire partie.
Michel Hazanavicius, est-ce que c'est plus facile maintenant d'avoir de l'argent pour faire des films que quand vous avez démarré, Emmanuel?
Non.
Non, c'est lui qui va répondre.
Mais non.
Il est producteur, il est hyper fort sur toutes ces questions.
Non, en fait, nous, en France, on est quand même très bien lotis, parce qu'il y a de l'argent qui est à disposition.
Jusqu'à maintenant.
Ouais, jusqu'à maintenant, mais c'est pas de l'argent, il y a un peu d'argent public, mais c'est pas de l'argent public, c'est vraiment de l'argent du cinéma qui est recyclé dans le cinéma, donc
ouais.
on est plutôt très bien lotis. Comme réalisateur, on est très protégé parce qu'on a quand même le contrôle de nos films, etc. Donc, je dirais que le cinéma est la France est un beau pays pour faire du cinéma. En revanche, en ce moment, c'est assez tendu. D'une ouais. manière générale, on n'a jamais assez d'argent pour faire les films.
Ouais.
J'ai pas connaissance de gens qui ne font pas de réécriture pour rentrer dans le budget, etc. Moi, là, je suis en plein là-dedans. J'ai pas assez d'argent, mais voilà, écoutez, Emmanuel, elle est dans
non,
le.
Non,
même...
mais là, les financements des films, c'est extrêmement difficile.
Et le vôtre, par exemple, celui que vous préparez, là. Vous avez tout le financement?
On n'a pas l'argent nécessaire pour faire le film. Après, les producteurs ont décidé d'y aller quand même.
Ouais.
Mais je veux pas trop parler de mon
D'accord.
cas. Mais c'est plutôt le nombre de films qui se font pas, là, c'est colossal.
Et puis, il y a un truc qui
c'est vraiment dur.
Il y a un truc qui se radicalise.
Ouais.
Qui se radicalise.
Qui se radicalise.
Ouais.
Oui, c'est-à-dire, il y a beaucoup de films, entre guillemets, en économie de misère, c'est très peu cher, et puis il y a des films très très gros,
ouais.
et voilà, et c'est vrai qu'il existait ce qu'on appelait les films du milieu,
ouais.
Ce milieu, il est en train de... ça devient la faille de San Andreas. Ouais. Voilà, donc c'est... Mais encore une fois,
il y a
vraiment pas à se plaindre par rapport aux autres pays, par rapport à d'autres métiers, ouais. etc.
Oui, Martin Jova pour son film Bazenville qui sort mercredi prochain. Vous restez avec nous, avec Emmanuel Berco et Michel Hazanavicius. On se retrouve après Alani, This Is Why.
This is why, when you tell me that you love me, something you said, oh, 1,000,000 times. I pretend that I don't care and act like I didn't hear. I even fight back a smile. And this is why, when you tell me that you love me, these three words make me want to cry. Imagine what your kisses do when mixed with an I love you. You make me feel like I can only die. You make me hot in December, even my name can't remember. But whenever we're together, babe, what the, I'm scared it's you. Mm-hmm. must be loud and clear, be bold, not shy. I want to forever stay together where we lay, and for you to know you're always mine. You don't need no words to know just how much I love you so. Wise man said long ago, eyes don't lie.
France Inter, on aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
On va commencer par Hamnet de Chloé Zhao, Laurent.
Volontiers.
C'est pas un biopic sur Shakespeare, ben, par parenthèse d'ailleurs son nom ne sera prononcé qu'une seule fois, mais plutôt le biopic d'une grande pièce du répertoire, un préquel, comme on dit, tout ce qui a précédé l'écriture d'Hamlet, un homme, William, sa femme Agnès, leur coup de foudre, leur grande histoire d'amour et la mort de leur enfant Hamnet, un film du côté de la femme, remarquable Jessie Buckley, une fresque fiévreuse et bouleversante sur le deuil et la création.
Ouais, absolument. Alors, ce qui est intéressant avec Shakespeare, c'est qu'au fond, on sait tellement peu de choses sur sa vie.
Oui, qu'on peut tout inventer.
On peut en faire des merveilles de fiction, hein, et c'est le cas. Il y a ce fils jumeau mort à l'adolescence qui se serait appelé Hamnet. Mm. Hamlet, c'est la même chose hein, en anglais. Avec cette inspiration possible pour Shakespeare. En fait, on n'en sait quasiment rien. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Peu importe. Chloé Zhao, effectivement, s'intéresse d'abord au personnage féminin, au personnage d'Agnès, la femme et la mère, qui est une sorte de mi-sorcière et de mi-fée, qui vit dans la forêt. Et d'entrée de jeu, on est plongé dans un univers absolument singulier, organique, sensuel, naturaliste. Enfin, ça, c'est une très très grande réussite du film, avec effectivement aussi cette réflexion, vous le disiez, sur le théâtre, le deuil, comment est-ce qu'un créateur s'empare de sa vie pour en faire autre chose, la mettre sur scène, en faire un chef-d'œuvre, etc. Le tout, c'est un film sensoriel, tactique, élégiaque. C'est incroyable, Chloé Zhao, hein, des premiers films hyper intimistes, un Marvel, ouais. Maintenant une fresque historique, chapeau, on attend le prochain film tellement il y a de belles influences et de belles fulgurances.
Et on cite Paul Mescal, et c'est vrai qu'à la fin, oui. On a une furieuse envie de lire ou relire ou d'aller voir Hamlet sur scène. Grand Ciel, premier film d'un cinéaste japonais installé en France depuis une vingtaine d'années. Il s'appelle Akihiro Hata. C'est un film avec Damien Bonnard et Samir Ghesmi. Vincent travaille au sein d'une équipe de nuit sur le chantier de Grand Ciel, un nouveau quartier futuriste. Lorsqu'un ouvrier disparaît, Vincent et ses collègues suspectent leur hiérarchie d'avoir dissimulé son accident. C'est tiré d'un fait divers en 2015. Mamadou Traoré, un intérimaire sans papier, est mort sur un chantier.
Oui, alors ça m'a fait penser au siècle dernier, il y avait un film avec Jean-Yann qui s'appelait L'Imprécateur, d'après René-Victor Pils,
ah oui.
Et qui était une incroyable histoire du siège parisien d'une multinationale américaine dont les fondations se fissuraient. Métaphore évidente sur le capitalisme au pied d'argile. J'ai retrouvé des résonances dans ce Grand Ciel parce que ça dit, ça raconte, non pas la même chose, mais on est quand même dans une proximité, avec cette fois le point de vue des ouvriers du chantier. Il faut décerner une belle étoile aux deux, Bonnard et Ghesmi, ouais. Qui sont formidables tous les deux dans le film. Et puis avec en toile de fond, et c'est ça aussi la grande singularité, c'est que l'immense écart qu'il y a entre le luxe de ce qui est en train de se construire et la pauvreté précarité de ceux qui le construisent. Donc ça, c'est vraiment une très très belle métaphore que tout le film file. On aurait pu s'attendre, vu certaines orientations, à une sorte de thriller fantastique. Le réalisateur hésite peut-être un peu trop à prendre cette pente qui aurait été certainement un plus dans son propos.
Christie and His Brother de Brendan Canty. C'est un premier film. Il est irlandais, expulsé de sa famille d'accueil, le jeune Christie, 17 ans, débarque chez son demi-frère, jeune papa qu'il connaît peu. Ce dernier vit mal cet arrangement qu'il espère temporaire, mais Christie se sent chez lui dans ce quartier populaire. Bien sûr, au début, on pense à Ken Loach. Et puis, peu à peu, le ciel sombre s'éclaircit. Le réal et son scénariste qui ont grandi dans le même quartier populaire de Cork et ont rencontré de nos jours des ados de ce quartier ont orienté leur scénario vers une communauté en quête d'unité et de résilience. sens, ce qui donne beaucoup d'authenticité aux propos, avec des acteurs non professionnels formidables.
Oui, absolument. Il y a une, vraiment une volonté d'optimisme très très marquée, de faire un compte social positif. Avec...
Sans éviter de parler de la dureté de la situation.
Pas du tout. Il y a, ouais. il y a des notations sociales qui sont très justes, très pertinentes, très, plutôt dures, avec une histoire de rédemption par la coiffure. Hein, c'est un peu Dany aux mains d'argent parce qu'il est héritier de sa mère coiffeuse. Hein, c'est ça. Et le tout, effectivement, très très joyeusement servi par une troupe d'acteurs non professionnels qui finissent d'embraser le film vers une sorte d'apothéose qui serait aussi quasi documentaire. Donc c'est cet amalgame-là, c'est ce mélange qui marche très très bien aussi.
Une page après l'autre, un premier film signé Nick Chuck. À la suite de la découverte d'une lettre de suicide, un enseignant d'un collège à Hong Kong se lance à la recherche de l'élève qui aurait pu l'écrire.
Oui, alors c'est un sujet assez balisé en ce moment, il faut le dire, hein, harcèlement sexuel, délitement familial, suicide d'adolescent, bon. Mais le film tient une note singulière à travers l'enquête que mène effectivement ce personnage principal pour tenter de connaître la vérité. Ça donne un récit ultra sensible sur le deuil impossible et les relations familiales complexes, avec une belle façon, très belle façon de décliner le passé et le présent dans les souvenirs qui remontent en permanence à la surface, jusqu'à un final qui pourrait laisser penser que l'apaisement est au rendez-vous, mais la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Comme
ça s'appelle une page après l'autre.
Ouais.
Celui-là s'appelle En route avec un point d'exclamation. C'est une série de 6 courts-métrages d'animation venus de Russie, d'Arménie, d'Allemagne, d'Italie et d'Iran et aux techniques très différentes.
Oui, vous avez envie de voir une escargotte qui vise Paris, un jeune dragon protégé par un nuage, ou bien encore un vieux sauveur de lapins tendance Noé, et ou un agneau apeuré, j'adore celui-là aussi, qui suit un jour un joueur de flûte. Il faut aller voir ce programme court, hein, 40 minutes au total. On joue avec les codes, on vient le voir, des contes et des légendes universelles, sur des tons pastels et des musiques inventives. C'est malin, c'est joyeux, c'est inspiré, c'est jamais mièvre, et tant mieux. Bref, on peut y aller vraiment en famille.
Le retour du projectionniste de Orkan Agazadeh. C'est un documentaire dans une région reculée des montagnes du Caucase en Azerbaïdjan. Samy, de réparateur de télévision, dépoussière son vieux projecteur, 35 mm de l'ère soviétique, espérant faire du cinéma avec un jeune garçon qu'il rencontre, un passionné. C'est bête à dire, mais une fiction ne parviendrait pas, Laurent, surtout en 1h20 de temps et 100 ans mort, à réussir ce conte moral, ce duo qui ne s'invente pas.
Oui, alors
et sans pathos.
Oui, absolument. C'est pas Cinéma Paradiso en Azerbaïdjan. Il n'y a pas de nostalgie ici, mais plutôt le combat pour faire vivre les images. C'est ça qui est passionnant. Il faut lutter pour rassembler toutes les pièces du puzzle qui permettront peut-être aux projectionnistes et aux projecteurs de fonctionner à nouveau. Et tout est compliqué, depuis la commande d'une lampe qui doit venir du fin fond de l'Europe jusqu'à l'ordinateur qu'on a du mal à assembler, le réseau Internet qui est là sans être là. Bref, c'est la façon incroyable de mélanger le rêve, l'utopie et la technologie. C'est tout ça que raconte le film avec des choses qui se passent maintenant. Et c'est absolument passionnant.
Il y a une très belle réplique qui dit « Je fais tourner le projecteur rien que pour entendre le son. Pour moi, c'est comme une berceuse. » Impérial Princesse de Virgile Vernier, Monaco. Un rocher des vanités qui travaille beaucoup l'imaginaire de ce réalisateur, un plein de luxe et un grand vide existentiel, une errance au milieu des lumières, en scène de luxe, yacht, mais un récit trop court presque qui donne une idée de ce monde, de cette vacuité, mais sans la raconter vraiment.
Ah, je trouve quand même que les 48 minutes passent bien, parce que c'est effectivement tourné.
C'est un cauchemar,
tourné au téléphone, il faut le dire, ouais. Par cette jeune fille dont on découvrira qu'en fait qu'elle n'est pas le personnage qu'on nous a présenté, mais peu importe, il y a un mélange de vrai et de faux, de fiction et de documentaire qui, je trouve, tout à fait réussi, avec effectivement cet incroyable décor absolument artificiel, vulgaire, qui se termine avec des images rose bonbon et puis qui se termine dans le vrombissement de la Formule 1. C'est entre rêve et cauchemar, et c'est tout à fait réussi à mes yeux.
Et puis on avait reçu les deux la semaine dernière, Olivier Assayas et son acteur Paul Dano, pour le match du Kremlin de Giuliano d'Empoli. avec aussi Jude Law, une incroyable analyse sur le démarrage du pouvoir, en fait, sur comment le construire, comment le développer, comment l'accompagner. Ça peut être pas forcément limité à la Russie, d'ailleurs.
Non, bien sûr, hein, c'est du mur de Berlin à la guerre en Ukraine, donc ouais. ça traverse toutes les décennies passées. Il est assez incroyable, hein, Sayas, il est capable de passer de choses ultra intimistes comme l'heure d'été à des fresques historiques comme Carlos ou comme le mage du Kremlin, avec le même brio, la même dextérité.
On a très peu de temps avant les trois cadeaux pour deux festivals. Un festival musical à Suresnes.
Oui, qui s'appelle le festival musical de Suresnes, bien comme par hasard, au cinéma Le Capitole, c'est original. Vibrons au son du cinéma, c'est la promesse, c'est du 27 janvier au 1er février. Vous pourrez y revoir notamment Coup de cœur de Coppola et d'autres films encore musicaux, évidemment, comme c'est la promesse.
Et à Valence,
sinon. Et puis jusqu'au 27 janvier, vous irez à Valence, au cinéma Le Luxe, très belle salle de cinéma, très dynamique. Viva Cinéma, ça fête le patrimoine restauré.
Alors maintenant, les cadeaux.
Les cadeaux. Alors, pour vous, Emmanuel Bercourt, on a choisi Papa est en voyage d'affaires, la palme d'or d'Emir Kusturica.
Sa première palme d'or.
La première palme d'or, vous avez raison, 1985, et son second long métrage, ô combien remarqué. On est en Yougoslavie au début des années 50, c'est une farce aussi baroque que douce et amère, avec de bons bonus qui permettent de voir et de revoir ce chef-d'œuvre.
Avec notamment Mickey Manojlovic, qui est devenu un sacré acteur.
Absolument.
Et qui parle français.
Pour vous, Michel Hazanavicius, on a pensé que El Magnifico, de El Magnifico, avec Terence Hill, je ne sais pas si vous le connaissez.
Et mais maintenant,
oui.
On l'appelle El Magnifico.
Et maintenant, on l'appelle
El
Magnifico. D'un cinéaste qui s'appelle Clucher aux États-Unis, mais en fait, c'est le pseudo de Enzo Barboni. Vous voyez, on en vient. C'est effectivement du Western Spaghetti, un anti-héros, c'est 1972. Les bonus sont nombreux, avec notamment un livret de 32 pages, et c'est édité par Bubble Pop, qui édite également, pour vous, Martin Jova, La vie, l'amour, les vaches, de Ron Underwood, 1991, avec Billy Crystal et Jack Palance. Il a reçu l'Oscar du second rôle masculin pour ce film-là. Bubble Pop aussi.
Merci Martin Jova, ce film Baise en ville, et merci à vos deux parrains, on va les appeler comme ça. Ouais. Emmanuel Bercot et Michel Hazanavicius, le film sort mercredi prochain. Merci à notre belle équipe, Valérie Ayestaraï à la réalisation, Benjamin Ducy à la préparation, Olivier Rioux à la programmation musicale, et aux manettes ce matin, Rémi Sistiaga. Au revoir.
C'était On aura tout vu sur France Inter.